Elle habitait une maison bien délabrée, entretenait et Saint-Rambert en bugeait. Elle vivait comme on vivait dans le passé.
Bienvenue dans cet épisode de podcast Arzon la Plaine, réalisé par la classe du Centre socio-culturel de l'Albarine, Alpha 3A avec Radio B. Je suis Dylan et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Parcollet. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le patrimoine naturel de notre département et plus précisément celui de la Plaine de l'Ain. Nous sommes au Collège de l'Albarine à Saint-Rambert-en-Bugey et nous avons décidé de vous parler du patrimoine naturel avec la rivière de l'Albarine. Elle a façonné les paysages et elle rend notre territoire unique. Découvrons cela dès maintenant avec notre invité. C'est parti pour l'interview.
Anne-Laure Parcollet, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Rapidement, pouvez-vous nous expliquer votre métier ?
Bonjour, je suis chargée de mission dans un syndicat de rivière, c'est-à-dire que je travaille sur la rivière d'Ain et, la plupart de ses affluents. Et donc on travaille sur, dans un objectif général d'amélioration de la qualité écologique des rivières et la préservation des milieux naturels.
Vous travaillez pour SR3A, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le SR3A, c'est le syndicat de la rivière d'Ain, Aval et ses affluents. Donc, c'est un syndicat de rivière qui travaille sur toute la rivière d'Ain dans sa traversée du département de l'Ain, tous les cours d'eau et les milieux humides. Un syndicat de rivière, en fait, c'est une structure publique. Ce sont les communes et les communautés de communes qui se regroupent pour donner cette compétence sur la gestion des milieux aquatiques à une structure, ce syndicat, qui a vraiment pour objectif de préserver les milieux aquatiques dans leur globalité, de les restaurer. Et puis aussi, c'est de la connaissance du milieu, de la communication, de la sensibilisation.
Qu'est-ce que c'est une zone humide ?
Alors, une zone humide, c'est une zone qui effectivement est en eau, soit en permanence, soit une partie de l'année. Il y a différents types de zones humides. Par exemple, sur le secteur, on a des marais, on a des tourbières aussi. Les tourbières, c'est un vrai réservoir d'eau. On les compare souvent à des éponges, c'est-à-dire qu'en hiver, quand il y a beaucoup d'eau, beaucoup de précipitations, elles vont accumuler toute cette eau. Et puis en été, en période sèche, elles vont pouvoir restituer cette eau. Et il faut savoir qu'en France, on a perdu les trois quarts de nos milieux humides. Depuis un siècle à peu près, on les a énormément dégradés parce que avant c'était considéré comme des milieux insalubres. On a drainé les parcelles pour pouvoir cultiver plus facilement, faire passer des machines, etc.
Où l'Albarine prend-elle sa source et où se jette-t-elle ?
Alors l'Albarine prend sa source sur le plateau de Brenneau, sur le plateau d'Hauteville, sur la commune de Brenneau exactement. Dans un ensemble de zones humides. Elle parcourt donc sa vallée pour aller rejoindre la rivière d'Ain sur la commune de Saint-Maurice-de-Raymond.
Comment l'Albarine façonne-t-elle le paysage ?
Alors, ce qui est assez particulier avec l'Albarine, c'est qu'elle traverse une succession effectivement de paysages différents qu'elle a façonnés en fonction de la géologie, de l'altitude, de la pente. Donc, on a sur le plateau d'Hauteville un ensemble assez plat constitué de beaucoup de marais, de zones humides. Ensuite, on a la cascade de la Charabotte, qui est une cascade importante et qui vraiment marque un peu une zone de rupture. On arrive dans une vallée encaissée, dans le secteur de Tenay, Argy. Et puis ensuite, on a le secteur donc plutôt de gorge, où il y a beaucoup de pentes, donc une rivière assez tumultueuse, on peut dire. Et puis on arrive ensuite dans la traversée de Saint-Rambert, par exemple, où elle commence à prendre un cours un peu plus calme. La forêt alluviale de Bétang, où elle va vraiment méandrer de manière assez... assez calme, pour finir dans cette zone de plaine autour d'Amberieu-en-Bugey, de plaine agricole. Puis elle rejoint la rivière d'Ain, en partie de manière souterraine.
Est-ce que l'Albarine est un milieu aquatique particulier ?
Sur le secteur de plateau, on est plutôt sur un ensemble de zones humides, où la rivière est temporaire. Donc on va avoir, en termes de diversité aquatique, on ne va pas avoir les mêmes choses que sur la partie aval, où on a une rivière de plus gros gabarit. Je dirais qu'elle a quand même une richesse qui est assez forte en termes de qualité des eaux et en termes biologiques.
Pourquoi l'Albarine n'est-elle pas navigable ?
Déjà, je pense qu'en la regardant, ça se voit assez facilement au niveau du gabarit de la rivière, parce qu'elle est quand même assez petite. Donc on voit mal, on imagine mal des bateaux ou des péniches passer. C'est lié aussi au relief, parce que quand on a des secteurs où on a des rivières avec beaucoup de blocs, des secteurs de gorge, voilà, c'est des secteurs qui sont pas forcément navigable par défaut. C'est ce qu'on appelle une rivière non domaniale, donc non navigable.
Quels poissons retrouve-t-on dans l'Albarine ?
Différentes espèces. Les plus emblématiques, ça va être la truite Fario, qui a quand même de très très belles populations de truites dans l'Albarine. Et puis l'ombre commun, qui est une espèce aussi qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les rivières et qui est assez emblématique aussi. Et puis après, donc c'est un peu ce qu'on appelle les rivières de première catégorie, des rivières où on a une eau très fraîche. On ne va pas avoir tout type de poissons. L'espèce repère, c'est vraiment la truite Fario et ce qu'on appelle les espèces d'accompagnement, comme le vairon par exemple, qui sont des espèces assez intéressantes, assez typiques des rivières relativement fraîches.
Au-delà des poissons, la rivière est-elle utile à d'autres animaux ?
Oui, bien sûr, autour d'une rivière, on a énormément d'animaux dans la rivière et autour de la rivière. Par exemple, tout ce qui ne se voit pas dans le fond de la rivière, dans le lit, on a tout ce qui est les invertébrés, qui sont beaucoup de larves d'insectes. Les insectes passent la plupart de leur vie sous forme de larves dans le fond de la rivière. Donc on ne les voit pas, mais c'est extrêmement important. Tout ce qui est libellules, éphémères. Finalement commencent leur vie dans la rivière. On a tout ce qui est oiseaux, évidemment. Par exemple, le martin pêcheur, le cincle plongeur aussi, qu'on trouve dans la traversée de Saint-Rambert, qui plonge pour aller pêcher des poissons. Puis après, évidemment, tout type d'animaux va venir s'abreuver, boire dans la rivière. Donc, sur la partie aval, on a du castor qui est présent. Donc voilà, c'est aussi une espèce très emblématique. Dans l'Albarine et dans ses affluents, il y a aussi d'autres espèces qui vivent, qui sont des écrevisses. Alors, il y a différents types d'écrevisses. Il y a les écrevisses à pattes blanches qu'on va retrouver surtout dans les affluents où l'eau est fraîche et de bonne qualité. On en trouve dans la Caline, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une espèce aujourd'hui qui est menacée d'extinction. Et puis, elle est concurrencée par une autre espèce d'écrevisse, qui est l'écrevisse américaine, qu'on a importée il y a des années, et qui colonise les rivières et qui, malheureusement, peuvent ramener la peste de l'écrevisse.
Combien l'Albarine a-t-elle d'affluents ?
Elle a des affluents sur le plateau. On a des affluents comme la Mandorne, comme la Caline, le Buzin aussi, le Sémar, vraiment sur la partie aval. On a une dizaine d'affluents, je dirais.
La rivière est-elle polluée ? Si oui, par quelle pollution ?
Alors l'Albarine, comme beaucoup de rivières, il y a des traces de pollution. Je dirais que c'est assez général quand même. Les pollutions qu'on peut retrouver, elles vont être plus ou moins importantes. C'est pas forcément des choses. C'est pas forcément des pollutions très fortes, mais il y a toujours des pollutions. Qui existent comme des rejets d'assainissement. Même s'il y a eu énormément d'efforts de fait depuis des années sur l'assainissement, il se peut toujours qu'il y ait des rejets directs ou indirects sur l'assainissement domestique, sur les rejets de zones d'activité. Ça peut être aussi des rejets ponctuels, donc c'est des choses qui peuvent arriver une fois. On a aussi malheureusement des accidents, qui soient des pollutions volontaires ou des accidents. Il y a eu déjà des pollutions comme sur la Caline il y a 2-3 ans. Une pollution volontaire à la Javel, donc c'est aussi des choses qui arrivent. Et après, les pollutions, il faut savoir qu'elles ne se voient pas toujours.
Qu'est-ce qui s'est passé à Torcieux ? L'Albarine a changé.
Alors, à Torcieux, en 2019, le SR3A a mené des travaux d'ampleur de restauration hydromorphologique de l'Albarine. C'est un secteur, en fait, où l'Albarine, à une époque, elle a été vraiment canalisée, chenalisée. Donc, elle n'avait plus un cours vraiment naturel. Elle était très contrainte. Elle commençait à s'inciser, c'est-à-dire, entre guillemets, à s'enfoncer. L'objectif, vraiment, de ce projet, c'était de retrouver un cours plus naturel pour une rivière de ce type-là et lui laisser de l'espace aussi.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode consacré au patrimoine naturel de la plaine de l'Ain. Il a été réalisé par Luna, Nassim, Hugo, Shana et moi-même avec Radio B, les animatrices et les bénévoles du Centre socio-culturel de l'Albarine. Il est professeur documentaliste du Collège de l'Albarine. Nous remercions Anne-Laure Parcollet pour sa participation à ses réponses et à la communauté. Nous remercions Anne-Laure Parcollet pour sa participation et ses réponses à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain pour cette opportunité. Préserver et valoriser notre environnement est une mission qui nous concerne tous.
Radio B.
Radio B.
Radio B. Les bonnes ondes.
Retrouvez-nous dans le prochain épisode de Arrosons la Plaine. Merci à vous tous pour votre écoute. À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.